Leïla Saïb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, adjointe de direction, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, mère de deux jeunes enfants et habitez Persan depuis 12 ans.
C'est ça.
Vous avez été candidate aux élections législatives partielles dans notre circonscription pour la France insoumise en 2018.
Oui.
Obtenant un score de 11,47%. À notre connaissance, c'est la première fois que vous êtes candidate à une élection municipale.
C'est la première fois.
Quel est votre parcours politique? Depuis quand militez-vous?
Alors, mon parcours politique, il est très récent. Même si, adolescente, j'étais en tant que lycéenne, je participais à des manifestations par rapport aux réformes scolaires. J'ai aussi fait des pétitions contre les violences faites aux femmes dans les pays du tiers-monde. Mais militante politique au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est depuis 2017, lors de la campagne des présidentielles, où j'ai rejoint la France insoumise.
Pourquoi la gauche persanaise est divisée avec deux listes candidates alors que Sébastien Lombard est membre du parti gauche républicaine et socialiste, parti qui a fait alliance avec la France insoumise lors des dernières élections européennes? Quels sont vos désaccords et comment l'expliquez-vous? Ou s'agirait-il peut-être tout simplement d'un problème d'ego si courant dans la politique?
Alors je ne sais pas si c'est un problème d'ego. En tout cas pas de mon côté, puisque quand nous avons démarré, quand nous avons pensé à monter une liste pour les municipales, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est M. Lombard, pendant les législatives partielles, où je lui ai dit que ce serait bien qu'il y ait une convergence entre la France insoumise et lui pour les élections municipales. Ensuite, on a commencé avec des gens du Parti communiste à monter notre liste. Et on a invité plein de personnes, plein de citoyens, des personnes apolitiques. Et à aucun moment, il n'était prévu que je sois tête de liste, pas au départ. Donc nous avions l'intention de faire comme on le fait à la France insoumise, à savoir faire voter les membres de la liste afin de choisir quelle était la personne qui représenterait mieux le groupe. Et c'est sur ces points de divergence, voilà, ce sont les points de divergence.
Vous êtes tête de liste, Persan en commun, soutenue par la France insoumise, le parti de gauche et le parti communiste. Comment a-t-elle été composée? Combien sont membres des trois partis? Et quel équilibre entre ceux-ci dans la composition de votre liste?
Alors, il y a très peu de personnes encartées dans notre liste. Si ma mémoire est bonne, j'espère pas me tromper, mais on a trois personnes de la France insoumise, deux personnes du Parti communiste, une personne du Parti de gauche, et toutes les autres personnes sont des citoyennes, des citoyens apolitiques.
Comment expliquez-vous que depuis 1995, sans interruption, la municipalité est dirigée par la droite?
Ah, ça c'est une bonne question. On se pose la question aussi. Il y a eu du temps de Le Bastard de grandes inondations en 1995 et on pense que c'est ce qui a aussi fait perdre la mairie à la gauche à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de peur de la part des citoyens et on pense que c'est ce qui a fait basculer. Mais maintenant je ne suis pas une politicienne aguerrie et c'est ma propre interprétation. Maintenant, le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a permis à M. Bazin de gagner cette élection en 1995 n'a pas servi de leçon, puisque ce qu'on a reproché à Le Bastard, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à M. Bazin. Cette urbanisation frénétique, ces dernières années, les bâtiments ont poussé comme des champignons sur Persan, ne tenant pas compte des plans d'urbanisme. Les plans ont été même modifiés pour permettre certaines constructions. On a plein de bâtiments bordeloises, dont une école qui peut se retrouver enclavée en cas d'inondation. On a une augmentation de la population importante et les infrastructures n'ont pas suivi. Et notre programme, il se base là-dessus, sur justement cette augmentation démographique et des infrastructures publiques qui ne suivaient pas.
Alors, vos objectifs affirmés sont que Persan devienne une ville humaine, modernisée, embellie, étoffée, en équipement et valorisée. Quel constat faites-vous de la ville et quelles sont vos principales critiques des actions et du bilan de la majorité sortante municipale?
Alors, ça fait deux ans qu'on est sur le terrain avec mon équipe, on fait du porte-à-porte, qu'on va à la rencontre des Persanais. Et ce qui en est ressorti, c'est le problème d'insalubrité, le problème que les gens ne se connaissent plus, les problèmes d'incivilité liés aussi au fait que les gens ne prennent plus le temps de se connaître et de discuter. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? On a parlé avec beaucoup de personnes qui nous ont expliqué qu'ils se sentaient isolés, que la politique actuelle ne tenait pas compte justement de cette augmentation démographique, qu'ils n'avaient pas de place en crèche, pas assez de place au niveau des accueils de loisirs. C'est tous ces éléments-là qui nous ont permis de construire ce programme. C'est la rencontre avec les personnes et les personnes.
Alors, comment a été élaboré votre programme constitué de 3 engagements municipaux que vous allez nous présenter au fil de cette interview? Quelles ont été vos idées et valeurs pour l'élaborer?
Alors, moi, mes idées, mes valeurs personnelles, ce sont celles de la France insoumise, évidemment. Donc, avec une idée que la participation des citoyens est primordiale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite avant tout mettre en avant, c'est qu'on doit remettre dans les mains des gens la politique de la ville. Les gens, souvent, on est face à une élection, on élit un maire, ses représentants, des conseillers municipaux, et on attend d'eux qu'ils fassent tout. Et puis, on se désengage. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que chaque personnaise s'implique dans les décisions qui vont être prises pendant ces 6 années si on est élu. Ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre en place le référendum d'initiative citoyen, c'est de donner la parole aux personnes, c'est de faire en sorte que chaque décision qui impacterait le quotidien des personnes, pour chaque décision importante, on puisse consulter les gens et que les gens puissent nous interpeller.
Votre premier engagement est que Persan soit une ville qui respire et protège. Quels sont vos objectifs et que signifie pour vous protéger?
Alors, une ville qui respire et qui protège. Une ville qui protège, c'est permettre à chacun de vivre dans de bonnes conditions. C'est permettre aux enfants de nos écoles de manger une alimentation bio, issue des circuits courts. C'est remettre à niveau les équipements dans les écoles. C'est faciliter les démarches des personnes. Je ne vais pas non plus tout lire le programme, mais protéger, c'est faire en sorte qu'on vive dans un cadre de vie où on se sente bien. C'est remettre des espaces verts, des jardins partagés, c'est arrêter l'urbanisation frénétique. C'est ça une ville qui respire. C'est une ville où on va replanter des arbres fruitiers, permettre aux insectes pollinisateurs de faire leur travail. Et c'est vivre en fait en adéquation avec la nature et prendre en compte les risques. On vit près d'un fleuve et il faut en prendre compte.
La défense de l'environnement, oui. Un développement durable à Persan. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos propositions et mesures qui vous paraissent essentielles concernant de nombreux autres domaines, parmi d'autres tels que la santé, le handicap, le social, la famille, l'enfance, la sécurité? Sans toutes les détailler, pouvez-vous nous en faire une courte description?
Alors, si on est élu, notre priorité, ce sera de d'ouvrir un centre municipal, voire intercommunal de santé. Alors, donc ça a l'air d'être un projet un petit peu ambitieux, mais c'est un projet qui est tout à fait réaliste. On a travaillé avec des partenaires. Là, on a fait une petite, on a préparé le terrain. Voilà. Y a un opérateur avec qui on a pris contact, des personnels de santé avec qui on a fait une étude et qui nous permettrait d'ouvrir ce centre médical fin 2020. Le coût pour la commune, ce serait la mise à disposition des locaux. Donc c'est pour dire que ça ne nécessite pas non plus un investissement énorme. Ce sera un centre médical sous statut associatif, donc à but non lucratif, qui permettra de proposer aux personnes des dentistes, des médecins généralistes, et puis à long terme, des spécialistes. Et tout cela, c'est conventionné secteur 1. Ça, c'est l'une de nos priorités en ce qui concerne la santé.
Géré par quelle association?
Alors, pour l'instant, on va taire le nom de l'association. Mais si on est élu, vous le saurez très rapidement.
Très bien. Et pourquoi pas gérer par l'intercommunauté?
Dans le sens avec des médecins fonctionnaires?
Oui.
Oui, parce que avoir des médecins fonctionnaires, ça a un coût. Avoir des médecins fonctionnaires, ça veut dire qu'il faut trouver des médecins qui acceptent d'être payés pas suffisamment. Le souci, en fait, des centres médicaux municipaux ou intercommunaux avec des médecins fonctionnaires, c'est qu'on a du mal à recruter.
Ou même départementaux. Hein.
Oui.
En fait, la plupart des jeunes médecins préférerait avoir un statut de salarié.
Oui, alors la plupart des jeunes médecins, en effet, préfèrent un statut salarié. C'est ce que l'association va proposer, un statut de salarié avec des 35 heures, mais avec un salaire beaucoup plus élevé que s'il avait été fonctionnaire.
Alors, vous proposez également d'aider à la création d'une maison de santé.
On avait dit qu'on voulait faciliter l'installation de médecins, pas la création d'une maison de santé.
D'accord.
Voilà, donc je sais que sur les arcades, il va y avoir en effet, le propriétaire des lieux souhaite installer un pôle médical et la mairie actuelle accompagne justement dans cette démarche et c'est quelque chose qu'on continuera à faire si on est élu.
Et concernant la charte Ville Handicap, en quoi consiste-t-elle ?
Alors, donc nous ce qu'on souhaite, c'est rendre accessible en fait tous les lieux de la ville aux personnes à mobilité réduite. Et pas seulement. Donc on sait que la plupart des bâtiments municipaux le sont déjà, mais il y a un souci au niveau des voiries qui ne sont pas adaptées. On ne voit rien qu'avec une poussette, il n'y a pas besoin d'être en fauteuil pour réaliser que c'est compliqué de se déplacer. Donc l'idée, c'est de travailler avec les personnes en situation de handicap et trouver ensemble les solutions adéquates. Les solutions, elles ne doivent pas venir de nous seulement, puisque moi, je ne suis pas en situation de handicap, donc je ne suis pas la mieux placée pour savoir quels sont les besoins. Et chaque handicap est différent et chaque personne a des problématiques qui lui sont propres. Donc il est important de pouvoir proposer un accueil individualisé, que les personnes puissent venir nous voir et nous dire ce qui ne va pas, et qu'on comprenne les problématiques et qu'on essaie de trouver une solution commune à toutes ces problématiques.
Alors vous avez tout un chapitre qui concerne la famille. Quelles sont les principales mesures ?
Nous, ce qu'on voudrait,
pour aider les familles.
Oui, pour aider les familles. Au sens du quotidien ?
Oui.
Oui. Bah, par exemple, les structures de jeu dans les différents parcs de la ville. On a quelques structures de jeu, mais elles sont vraiment ridicules proportionnellement au nombre d'habitants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est réaménager le parc Robespierre et installer des structures de jeu, et en installer aussi un peu partout sur la ville. Et je pense en fait au parc de l'Isle-Adam, sur lequel de formidables structures de jeu sont installées. Et c'est un lieu assez convivial où les familles se retrouvent, prennent le temps de discuter, les enfants prennent le temps d'échanger, de discuter. Bah, c'est de remettre en fait du lien social.
Vous souhaitez développer le travail du CCAS ? Dans quel domaine ?
Alors, ce n'est pas développer, c'est surtout le valoriser. C'est que beaucoup de personnes se sentent à l'écart du CCAS. Quand on a fait nos porte-à-porte, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par ce qui est proposé alors qu'ils font un travail formidable. Donc, l'idée, c'est de le promouvoir et de le rendre accessible au plus grand nombre. Sachant que, par exemple, si on prend le restaurant des anciens, c'est compliqué d'accueillir beaucoup plus de personnes parce qu'on est limité. C'est ce que m'ont dit les agents avec qui j'ai pu discuter. Donc le développer, oui, mais de toute façon, on ne peut pas accueillir beaucoup plus de monde. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir le développer, de leur permettre d'accueillir en fait tous ceux qui souhaitent en bénéficier et que ce ne soit pas réservé juste à un nombre restreint.
Alors Marie,
oui.
Vous souhaitez également développer un réseau d'aide à la parentalité. Comment ? Avec quels moyens ?
Avec des moyens humains. Non, la parentalité, c'est très important. Puis moi, je suis enseignante et je suis maman et je sais que c'est pas toujours facile d'être parent et qu'on n'a pas toujours les clés, pas toujours le recul pour prendre les bonnes décisions ou avoir les bonnes réactions. Donc la parentalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que parfois, en tant que maman, on peut se sentir démunie, on peut se sentir seule dans les problèmes que l'on rencontre. Et le fait de pouvoir échanger entre parents, entre papa, maman, qui rencontrent des difficultés avec son enfant, ça peut aider à les surmonter. Donc moi, c'est important, je pense, qu'on crée de la communication entre les parents. C'est ça, ce réseau d'aide à la parentalité. C'est que les parents qui éprouvent des difficultés puissent venir sans avoir honte, puissent parler, discuter et dire quels sont les problèmes qu'ils rencontrent avec leur enfant. Et qu'ensemble, on puisse réaliser que ben il y a des problèmes qui nous sont communs, qu'on n'est pas seul face à ça, et qu'on peut peut-être y répondre. Alors, il n'y aura pas une réponse, parce que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque structure familiale est différente, mais qu'ensemble, c'est possible, et puis surtout, ne pas laisser les gens seuls face à cette problématique.
Vous souhaitez développer également des lieux conviviaux, mais... Ça existe déjà, non ?
Alors, si ça existe déjà, je sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par lieu convivial ?
Ah oui, lieux conviviaux dans les, je vous cite, dans les structures municipales, médiathèques, salles Gambetta, mm-hmm. pour l'enfance, conservatoire.
Mm-hmm. Donc, alors le conservatoire, si on doit citer celui-ci, en effet, il y a des choses très conviviales qui se créent, mais beaucoup de personnes se sentent à l'écart et n'osent pas franchir les portes du conservatoire. Donc l'idée, c'est d'élargir et de rendre le conservatoire accessible au plus grand nombre, de montrer que la culture n'est pas comment dire, dédiée à une élite, mais qu'elle est là pour le plus grand nombre. Ensuite, si on reparle de la salle Gambetta, c'est une salle qui est la Maison Blanche, laissée un petit peu à l'abandon. Pour l'avoir utilisée pendant la campagne, je vois bien dans quel état elle est. Elle est très peu utilisée, si ce n'est pour des réunions associatives, en effet, des réunions d'organisation, alors qu'elle pourrait être utilisée beaucoup plus, organisée par exemple pour les familles qui le souhaitent, des anniversaires, des fêtes, enfin que cette petite salle puisse être une salle prêtée aux administrés pour des événements familiaux. Vous aviez cité d'autres lieux, je crois la médiathèque, c'est ça, si oui. Je me rappelle bien. Donc la médiathèque, pareil, c'est un endroit où en effet le personnel fait un superbe travail. Par contre, les horaires d'ouverture de la médiathèque ne permettent pas à tout le monde de la fréquenter. En fonction de ses horaires de travail, en fonction des projets individuels de chacun, c'est compliqué pour ceux qui travaillent de pouvoir la fréquenter. Donc l'idée, c'est d'élargir les heures d'ouverture de cette médiathèque pour que tout le monde puisse en profiter. Maintenant, je le répète, le personnel de la médiathèque fait un travail formidable.
Alors vous souhaitez également mettre en place des activités périscolaires. Mais il en existe déjà.
Vous pouvez me citer
Les dos de voir, etc.
Par
exemple, Alternative FM,
oui.
Anime des ateliers radio.
Ah ben vous savez, ça je ne savais pas.
Vous ne saviez pas ?
Non, je ne le savais pas.
Donc, qui favorise normalement la citoyenneté ?
Eh bien, ce qui serait bien, c'est que ce que vous faites là soit beaucoup plus médiatisé, entre guillemets.
Oui.
Voilà. Parce que je ne suis pas sûre que les personnes soient au courant que vous fassiez ce genre de choses.
Alors, on le fait en partenariat avec la MJC.
Non, mais c'est très bien. Moi,
je
soutiens ce genre d'initiative et c'est superbe. Maintenant, pour les activités périscolaires à mettre en place pour se développer comme citoyen, moi, je voudrais revoir un petit peu avec l'équipe et avec l'équipe d'animation le projet du centre de loisirs, voir comment il a été construit, hein, tel un projet d'école. Il y a un projet pédagogique. Et en discuter. Moi, je sais, en tant que maman, que parfois mes enfants reviennent avec des chansons de rap qui ne sont pas de leur âge, avec des activités qui me paraissent un peu surprenantes. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance peut-être pédagogique, il y a peut-être besoin de retravailler le projet. Et puis, au niveau de la citoyenneté, même si des choses sont faites, et au niveau aussi de l'environnement, je ne dis pas que ce n'est pas fait, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut réfléchir avec les animateurs et les directeurs des centres de loisirs à un projet qui va au-delà de ce qui est fait actuellement.
Au niveau de l'environnement et du cadre de vie, quelles sont vos principales propositions ?
Au niveau de l'environnement et du cadre de vie ? Alors sur l'environnement, il y a notre objectif en fait de replanter des arbres fruitiers. De limiter les constructions, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'espace vert sur notre commune. On m'a demandé l'environnement et, excusez-moi, vous pouvez reposer votre question ?
Et le cadre de vie.
Et le cadre de vie.
Je reprends vos têtes de chapitre.
Mes têtes de chapitre, d'accord. Oui, celui que vous avez dans le programme, le 16 pages.
Oui.
D'accord, ok.
Par exemple, vous vous engagez dans un projet de territoire et de développement durable.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en niveau de l'environnement, on a tout ce qui concerne les dispositifs de rénovation thermique des logements. Donc, on a des aides de l'État, notamment avec l'ANA, pour pouvoir bénéficier de subventions et rénover son logement. Ça peut être fait sur des logements collectifs, mais aussi individuels. Mais il faut connaître ces démarches. Elles sont parfois longues, lourdes. Elles demandent un investissement au niveau des démarches administratives et aussi un investissement financier. Donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans cette rénovation thermique en facilitant les démarches et pourquoi pas proposer des microcrédits pour les personnes qui ne pourraient pas avancer la somme d'argent nécessaire aux travaux, sachant qu'une grande partie des travaux sont pris en charge par l'État.
Alors vous voulez également promouvoir une trame verte.
Mmh. Ça veut dire que dans toutes les décisions que l'on va prendre, dans toutes les actions qu'on va mener, nous aurons toujours dans notre tête l'écologie et le développement durable. Donc toutes les décisions qui seront prises, elles prendront en compte l'impact sur l'environnement. C'est ça notre
objectif. Vous voulez mettre en place aussi une politique de protection de l'environnement et de la biodiversité.
Mm-hmm.
En même temps, développer l'agriculture urbaine.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Hein? Vous voulez que je développe, c'est ça?
Par quel moyen?
Par quel moyen?
Et quelles initiatives?
Donc on a parlé des jardins partagés. On voudrait aussi soutenir les AMAP qui permettent de développer l'agriculture paysanne. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ça ne me vient plus, je vous avoue. Hein. Donc, je vous ai dit environnement, biodiversité. Ça ne me vient pas.
Zéro pesticides.
Oui, alors ça, c'est... Merci. Du coup, vous me relancez. Super. Je vous remercie. Oui, c'est de veiller à ce que les produits qui soient utilisés au niveau de la municipalité soient des produits éco-responsables, hein, qu'on utilise des produits qui ne nuisent pas à notre environnement. Faire en sorte que les déchets soient recyclés, une meilleure gestion d'ailleurs des déchets, mais dans le quotidien, au niveau de toutes les infrastructures municipales, c'est toute une éducation en fait qu'il faut mettre en place, des parcours et des circuits pour éviter. L'objectif, c'est le zéro déchet, hein, même si c'est un objectif un peu utopique. En tout cas, c'est celui qu'on essaiera d'atteindre.
Développer l'agriculture urbaine.
Mm-hmm.
Comment?
Alors sur Persan, ça va être difficile.
Oui. Puisque... Dans quel lieu de Persan? Dans quels endroits?
C'est ce que j'allais dire. Sur Persan, ça va être difficile parce qu'en effet, il reste beaucoup, très peu de terrain utilisable. Maintenant, quand on dit agriculture urbaine, ce n'est pas des grands champs. Hein. On n'est pas des fermiers, on n'est pas des agriculteurs professionnels. Hein. L'idée, c'est de récupérer tous les espaces verts possibles pour y faire des petits jardins partagés, des jardins potagers, permettre à chacun de cultiver, même quand on habite en immeuble. L'idée, c'est ça. Mais ce n'est pas nous qui allons décider des lieux propices à ce genre de choses, parce que ce n'est pas une poignée de conseillers municipaux qui vont décider et décréter que cet endroit sera plus propice qu'un autre. C'est quelque chose qui doit se faire en concertation avec les citoyens. Et on sait très bien que tous ces projets, quand ils sont faits et qu'ils arrivent d'en haut comme ça, vers le bas, ils perdurent pas. Donc il faut que ce soit vraiment les gens qui prennent en main ces initiatives. Donc nous, on va essayer de les porter, on va essayer de les amener auprès de ces personnes-là. Mais si elles ne s'en saisissent pas, on n'y arrivera pas. Donc notre objectif, c'est faire en sorte que chaque personne se sente investie et qu'il ait envie en fait d'investir ce type de projet. Et on a besoin de savoir, pour revenir sur le jardin potager, à quel endroit on va les faire, quel est le meilleur endroit, est-ce que c'est des endroits qui vont être investis ou qui vont être laissés à l'abandon au bout de 6 mois. Donc c'est quelque chose qui doit se faire en concertation avec les citoyens.
Alors parlons déplacement, mobilité, stationnement.
Oui.
Quelles sont vos propositions, notamment vous voulez obtenir de nouvelles lignes de bus dans tous les quartiers?
Alors on ne pourra pas desservir tous les quartiers, mais un maximum de quartiers. L'idée c'est que chaque personne puisse se rendre, utiliser les moyens de transport en commun. Maintenant, le problème de stationnement, c'est un problème qui est lié à l'augmentation démographique de notre ville. Forcément, il y a des constructions, il n'y a pas forcément les places de stationnement qui vont avec, ou alors elles ne sont pas vendues avec les appartements et les personnes n'ont pas les moyens de les acheter. Du coup, elles se garent sur les trottoirs, dans les rues, ce qui empêche en effet les personnes à mobilité réduite et les poussettes de circuler normalement. Donc notre idée, il y a deux axes. Un, c'est de créer un parking municipal, puisqu'avant nous avions un parking intercommunal au niveau de la gare de Persan-Beaumont. L'intercommunalité a cédé en fait la cession, hein, l'utilisation de ce parking à une société privée qui a augmenté considérablement les prix. Nous sommes passés de 17€ par mois à 47€ par mois. Donc beaucoup de personnes et beaucoup aussi de personnes de l'intercommunalité préfèrent garer sauvagement leurs véhicules un petit peu partout, notamment sur les rives des bords de l'Oise, Et on a aussi des voitures qui sont là toute la journée et qui gênent la circulation et le stationnement pour accéder à certains commerces. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est rétablir un parking municipal. Donc celui-ci, on ne pourra pas y accéder puisque ça y est, maintenant, c'est fait, les choses sont faites. Par contre, on peut en créer un autre sans bétonnage. Donc pareil, là, nous avons un lieu en tête, mais tant que nous ne sommes pas élus, nous préférons garder ce lieu pour nous. Donc c'est pareil, ce lieu, il sera proposé en concertation aux Persanais pour voir si, en effet, celui que nous avons choisi est le lieu adéquat pour permettre aux Persanais, et si l'intercommunalité nous suit, à l'intercommunalité, de proposer un parking à tarif municipal.
Et il serait situé en centre-ville ou...
Oui, près de la gare.
Près de la gare.
Voilà.
D'accord. Vous proposez du bio dans toutes les cantines.
Oui.
Quel type de bio, parce que c'est difficile aussi, le bio dans les circuits courts.
Alors, on a dit le bio et favoriser les circuits courts. Ça va être difficile, en effet, les deux, c'est compliqué. Hein. Donc on a bien précisé le bio et aussi favoriser les circuits courts. Il faut savoir aujourd'hui que sur Persan, les fruits et légumes sont déjà bio. Donc déjà, une partie du travail a été fait et j'en remercie la municipalité actuelle. Dommage qu'elle nous ait informés assez tardivement, puisque nous avons appris dans le magazine de janvier qu'en effet, les fruits et légumes étaient bio dans les cantines persanaises, donc très heureuse de l'apprendre, surtout en tant que maman. Mais on a appris également que cela faisait 7 à 8 mois que c'était bio, donc on trouve bizarre que la municipalité n'ait pas informé en septembre ou au mois d'août qu'en effet, elle avait décidé de ne fournir que des fruits et des légumes bio dans nos cantines, et c'est une très belle initiative et une très belle décision. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est poursuivre ce travail et le prolonger et faire en sorte que tous les aliments proposés à nos enfants soient bio. Et en effet, si on ne peut pas faire du 100% bio, en tout cas pour le moment, proposer des aliments issus de filières courtes. Puisqu'il faut savoir que pour pouvoir proposer du 100% bio, il faut qu'on ait suffisamment de commerçants, d'agriculteurs, de fournisseurs bio tout simplement. Et pour l'instant, le nombre de fournisseurs bio n'est pas capable de répondre à la demande si toutes les municipalités d'Île-de-France et de France devaient passer au bio dès demain. Donc on est bien conscient que ça va être un travail assez long, que ça ne dépend pas que des décisions municipales, mais que c'est une politique, j'ai envie de dire, nationale.
Léla Saïb, oui. À la lecture de votre programme, tu es rendu compte que vous aimez les animaux?
Oui. Oui.
Alors, parce que vous ne proposez pas simplement une fourrière, stérilisation, etc., mais vous voulez soutenir les propriétaires d'animaux en difficulté.
Oui, parce que c'est une vraie souffrance pour ces personnes-là. Donc, on ne propose pas une fourrière. La fourrière existe déjà.
Oui, oui.
Donc, ce qu'on propose, c'est qu'à la base de cette fourrière, il devait y avoir un refuge animalier. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'un animal, quand il arrive en fourrière, il a 10 jours de fourrière. Et puis après, s'il n'est pas réclamé, de possibilités, soit il est euthanasié, soit un refuge récupère les animaux pour les placer à l'adoption. Donc le fait qu'il n'y en ait pas à côté, on a bien peur qu'un grand nombre d'animaux non réclamés soient en effet euthanasiés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la campagne de stérilisation, elle est importante pour éviter justement le développement des chats errants. Et le soutien auprès des familles, ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que faut savoir que quand on est une famille en difficulté et qu'on a un animal... S'en séparer, c'est pas acceptable et c'est pas admissible parce que l'animal fait partie de la famille, hein, c'est un membre de la famille. Donc, comme on aide ces familles pour se nourrir, je trouvais intéressant et important de pouvoir accompagner ces familles en difficulté sur ces moments de vie un peu difficiles, parce que souvent c'est des passades qui sont plus ou moins longues, hélas. Et de pouvoir les accompagner. Il y a beaucoup d'associations de protection animale qui seraient ravies en fait de nous aider dans cette démarche.
C'est une proposition qu'on trouve très rarement dans les programmes.
Et pourtant, c'est une proposition qui n'a pas une grosse incidence économique. Hein. Je veux dire, c'est pas ce qui va faire des trous dans les caisses de la municipalité, puisqu'on a beaucoup aussi de grandes surfaces qui offrent des aliments, qui donnent aux associations. Et c'est pour ça qu'on veut le faire en partenariat avec les associations de protection animale, puisqu'elles ont un réseau. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste les aider à mettre en place cette aide alimentaire pour les animaux dont les propriétaires sont en difficulté financière.